Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut, c'est Gilles Durand. Bienvenue dans Première fois, la série podcast de 20 minutes consacrée aux premières fois dans le sport. Aujourd'hui, on se replonge dans une période sombre de l'histoire, les Jeux Olympiques de Berlin en 1936, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Vous ne le savez peut-être pas, mais ce sont les nazis qui, les premiers, ont scénarisé le parcours de la flamme olympique d'Olympie en Grèce jusqu'à la ville haute. Retour sur cette initiative devenue le symbole de l'olympisme moderne. C'est un récit de Camille Ruiz.
Une clameur fracassante résonne soudain. Ce sont les cris d'enthousiasme des 100 000 spectateurs venus assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Dans le stade monumental, une tonique silhouette blonde vient d'entrer, une torche à la main. 12 jours plus tôt, cette flamme a été allumée à Olympie, berceau des Jeux grecs de l'Antiquité. Le journaliste français Gaston Meyer s'extasie. Dans une foulée quasi divine, le flambeau bien droit, il parcourait un demi-tour de piste aérien, ses cheveux flottant au vent parallèle à la flamme. Le coureur s'appelle Fritz Schlegel, il est champion de demi-fond. C'est la première fois que l'embrasement de la vasque olympique est ainsi scénarisé. Nous sommes le 1er août 1936 à Berlin, au cœur de l'Allemagne nazie.
Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
En prononçant son discours de paix, le chancelier Adolf Hitler jubile. Le monde entier assiste à son triomphe. 3 ans plus tard, l'Europe va sombrer dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale. Comment ces Jeux olympiques ont-ils pu se tenir en Allemagne dans un tel climat de racisme et de violence ? Dans les années 1980, le sociologue du sport Jean-Marie Brome a exhumé certaines archives compromettantes sur le sujet. Il met directement en cause l'attitude des dignitaires du Comité international olympique, coupable, à ses yeux, d'avoir leur part de responsabilité dans la montée en puissance d'Hitler grâce à ces Jeux. L'inventeur des JO modernes, Pierre de Coubertin, n'a-t-il pas lui-même avoué publiquement « La grandiose réussite des Jeux de Berlin a magnifiquement servi l'idéal olympique ?» Il est vrai que c'est la première fois que l'événement est mis en scène avec un décorum aussi spectaculaire, et notamment le symbole de la flamme olympique. L'idée d'un relais entre Olympie et Berlin est née, 2 ans plus tôt, en 1934, dans la tête de Karl Diem, un universitaire chargé de l'organisation. Grand connaisseur de la Grèce antique, Karl Diem rapproche l'idéologie nazie de l'esprit olympique. Selon lui, la race aryenne du peuple allemand se retrouve parfaitement dans ces luttes viriles de l'Antiquité. L'universitaire est parvenu à convaincre le ministre, Joseph Goebbels, du formidable outil de propagande que constituaient les Jeux Olympiques. L'Allemagne financera même des fouilles archéologiques sur le site antique d'Olympie. Le CIO est aux anges, et la flamme olympique va rester jusqu'à aujourd'hui l'incontournable symbole de l'événement.
François Tomaseau, bonjour. Vous êtes journaliste et écrivain. En 2006, vous avez publié un ouvrage intitulé « 1936, la France à l'épreuve des Jeux Olympiques de Berlin » en collaboration avec le journaliste Fabrice Abgral. Vous avez donc une bonne connaissance de ces JO considérés comme une tache dans l'histoire de l'olympisme. Est-ce que, comme le sociologue Jean-Marie Brome, vous dénoncez une communion de pensée entre les organisateurs du CIO et les nazis à cette époque ? Ou alors vous considérez que le CIO a plutôt été aveugle dans cette affaire ?
Je répondrai ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que le CIO avait tout intérêt, a toujours tout intérêt à ce que les Jeux aient lieu. On le voit à toutes les organisations, à toutes les éditions. Les Jeux doivent passer outre les considérations politiques. La philosophie première du mouvement olympique, c'est l'apolitisme. Alors c'est, on peut le contester, on peut le trouver ça totalement hypocrite. Et d'ailleurs, c'est une position qui a toujours été intenable puisque la politique a toujours fait partie non seulement du sport mais des Jeux olympiques. Mais c'est au nom de cet apolitisme que le mouvement olympique a fait en sorte que tous les Jeux se déroulent, qu'ils soient en Chine, dans l'Allemagne nazie ou ailleurs. aveuglement, on peut pas dire ça non plus, puisqu'ils ont mené des enquêtes. Hein, le président du CIO à l'époque, Bayer Latour, s'est rendu en Allemagne pour voir de ses yeux s'il y avait des discriminations fortes contre les Juifs. Il en est revenu en disant que ça allait à peu près. Idem pour son adjoint Avery Brundage, qui allait être plus tard président du CIO, qui est aussi allé en Allemagne mener sa petite enquête. Ils ont estimé qu'il n'y avait pas de raison d'annuler les Jeux. De là à dire que Bayer Latour, Brundage étaient des nazis convaincus, ça serait aussi un pas à franchir qui serait un peu trop important. Ce qu'on peut dire, c'est que le CIO a toujours été une institution conservatrice, voire ultra-conservatrice, qui est pour le statu quo. Et quand l'occurrence, il y avait des convergences d'intérêts entre les intérêts du CIO et les intérêts du parti nazi allemand.
À votre avis, est-ce qu'aujourd'hui, il faut garder en fait ce relais de la flamme quand on connaît sa symbolique historique ?
Oui, alors la symbolique historique de la flamme, de la cloche olympique, de l'hymne olympique, de tout ce qu'ont mis en place les nazis en 36 pour faire l'événement le plus grandiose, je pense qu'il échappe totalement aujourd'hui, non seulement aux gens du CIO, mais aussi aux spectateurs. Donc la portée symbolique, je pense qu'il y a 0,00% des spectateurs des Jeux Olympiques aujourd'hui qui, en voyant arriver la flamme olympique dans le stade, y voient un symbole nazi. Donc c'est bien de rappeler d'où ça vient. C'est toujours bon de rappeler l'histoire et de rappeler les origines des choses. Mais aujourd'hui, cette portée symbolique a complètement dérivé, n'a plus rien à voir avec la portée symbolique que les nazis lui prêtaient éventuellement. On pourrait aussi dire que les nazis sont les premiers à avoir introduit la télévision aux Jeux Olympiques, c'est le cas, hein. C'était même Leni Riefenstahl qui était chargé de filmer tout le... Et il y avait vraiment une télévision, les Jeux étaient retransmis en direct en vase clos dans la ville de Berlin. Donc faudrait-il supprimer la télé aux Jeux Olympiques aujourd'hui sous prétexte que ce serait une symbolique nazie? C'est un peu exagéré.
Est-ce que vous pouvez nous parler de la délégation française lors de ces Jeux, puisque c'est le sujet de votre livre, écrit avec Fabrice Abgral?
Oui, j'ai traité ce sujet aussi dans des livres par la suite, hein, qui s'appelait L'imposture du sport chez First, et puis par la suite Histoire secrète du sport, qui est paru beaucoup plus récemment aux éditions de La Découverte. La fédération française a été dans l'ambiguïté de cette époque et de tout le monde, c'est-à-dire qu'il y avait une campagne de boycott assez puissante, moins en France d'ailleurs qu'aux États-Unis, où elle était très très puissante, puisqu'orchestrée à l'époque par les organisations juives aux États-Unis. Il y avait quand même une campagne de boycott, et on aurait pu s'attendre, puisque le Front populaire, donc la gauche, les socialistes avec leurs alliés communistes et radicaux sont arrivés au pouvoir en mai 1936, donc les Jeux Olympiques étaient 3 mois plus tard, on aurait pu penser que la France allait soutenir un boycott des Jeux nazis. Ça ne s'est pas passé pour des raisons diplomatiques un peu longues à expliquer, mais disons que l'ambassadeur de France à l'époque, François Poncet, était plutôt pour tempérer les choses avec le régime nazi. On essayait de pas heurter de front Adolf Hitler, donc on s'est dit bon, on va quand même envoyer une délégation. Par ailleurs, le Comité National Olympique avait fait remarquer, ce qui est encore le cas aujourd'hui, que ce ne sont pas les pays qui sont invités aux Jeux Olympiques, mais les comités olympiques. Donc la délégation française aurait très bien pu se rendre à Berlin, même sans l'autorisation de son gouvernement. Et finalement, la situation un peu ambiguë qu'a pris le gouvernement et le ministère de Léo Lagrange, qui était pourtant un soutien du boycott au départ, a été de donner autant d'argent à la délégation olympique aux Jeux de Berlin qu'à la délégation qui devait se rendre à ce qu'on a appelé l'Olympiade populaire, qui était une Olympiade de mise en place par les fédérations sportives ouvrières à Barcelone, Olympiade populaire qui n'a jamais eu lieu, puisque le coup d'État des généraux, et notamment de Franco, a eu lieu la veille de la cérémonie d'ouverture de cette Olympiade populaire. Alors ensuite, il y a eu un événement à Berlin qui est que la délégation française a défilé dans le stade olympique de Berlin, le bras levé, en faisant ce qu'il pensait être le salut olympique, ce qui en effet existe, mais qui a été interprété par la foule et par les spectateurs et par les observateurs comme étant très proche du salut nazi.
Vous avez évoqué le boycott, ça nous ramène à aujourd'hui, où il y a récemment un éventuel boycott qui a été évoqué à propos de la prochaine Coupe du Monde au Qatar, où le nombre de morts sur les chantiers de construction des stades ne cesse d'augmenter. Est-ce qu'on peut comparer ces deux prises de conscience finalement à quasiment 80 ans d'écart?
On ne peut pas vraiment comparer le régime qatari et le régime nazi. Ce sont des, géographiquement, historiquement, des choses totalement différentes. Le sport a évolué de manière considérable. À l'époque des Jeux de Berlin, le sport était à 99% amateurs, donc les enjeux économiques étaient beaucoup plus faibles. Aujourd'hui, on parle de milliards. À l'époque, les enjeux économiques ne jouaient absolument pas. Pour revenir à Berlin, Berlin a été pour beaucoup de gens qui s'y sont rendus un moyen d'ouvrir les yeux. Tous les gens qui se sont rendus là-bas, je pense à un académicien qui s'appelait Pierre Gillet, qui était pourtant à la droite de la droite, est rentré d'Allemagne. Après, il a écrit un livre d'ailleurs dessus, dans lequel il raconte que selon lui, ça y est, la guerre va avoir lieu. Wilfried d'Ormesson, qui était l'oncle de Jean et la grande plume diplomatique du Figaro à l'époque, qui n'est pas non plus d'extrême gauche, est lui aussi rentré de Berlin convaincu que la guerre allait avoir lieu. Penser que le boycott des Jeux de Berlin aurait empêché la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même franchement du délire.
Merci en tout cas de vos explications, François Tomaso.
Je vous en prie.
Je renvoie à la lecture de vos ouvrages sur le sujet. Et à bientôt. Merci.
Au revoir.
Première fois consacrée à la flamme olympique et au JO de Berlin, c'est fini. Ce rendez-vous sport est à écouter dans le podcast Minute Papillon, disponible gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous gratuitement et à très bientôt pour un nouvel épisode.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.